Ce dimanche a été choisi par le consistoire de notre communauté comme étant le dimanche pour célébrer le Seigneur pour la réforme. Normalement, chaque année, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre district organise un culte en commun pour cet événement. Mais pour cause de Covid-19, nous allons la célébrer ici aujourd'hui dans notre paroisse. C'est pourquoi, exceptionnellement, nous n'allons pas prendre le lectionnaire aujourd'hui. Mais on a choisi un thème qui me semble assez capital et récurrent dans les débats et discussions bibliques. Alors je me suis dit, nous allons parler d'un thème très cher à Luther lors de la Réforme, le serf-arbitre. Et nous allons l'aborder à partir de Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Romains chapitre 7, versets 14 à 25. L'épître chère à Luther, bien sûr. Au nom de Jésus. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis un homme faible, vendu comme un esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si ce que je fais, je ne le veux pas, je reconnais ainsi que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma faiblesse humaine. En effet, quoique le désir de faire le bien existe en moi, je suis pourtant incapable de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette règle. Quand je veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Dieu soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis au service de la loi du péché. Amen. Chers amis, ce passage est terrible à entendre. Terrible à entendre pour les oreilles d'un orgueilleux. Paul met le doigt sur le vrai moi, et je mets en majuscule moi, la maladie orgueilleuse incurable. Moi. Paul fait un constat amer au verset 14. Je suis un être de chair vendu au péché. C'est-à-dire, le corps est devenu esclave du péché. Et quand je dis le corps, tout notre être, le cerveau, le cœur, les reins, notre sang, sous l'emprise totale à 100% du péché. Et c'est pour cela qu'on l'appelle la chair. Paul utilise deux expressions différentes pour mettre la nuance quand il parle le corps, c'est-à-dire le soma, et quand il parle de la chair, c'est celui qui est esclave du péché. Ce qui implique que nous sommes des esclaves, des captifs du péché. Pour comprendre ces propos de Paul, à une certaine époque, les esclaves ont été marqués dans leur corps, recevant la marque de son propriétaire. Et donc, quand ils étaient revendus à un autre propriétaire, ils gardaient toujours la marque ancienne sur leur corps, tout en ayant un nouveau propriétaire. Et c'est cette image-là qui est utilisée par Paul. Paul parle avec un arrière-plan historique que nous, aujourd'hui, nous ne connaissons pas. Un esclave, quand il a retrouvé sa liberté après X années, les traces des années de servitude, que ce soit sur le corps et surtout psychologiquement, laissent des séquelles indélébiles à jamais. L'esclave qui a retrouvé la liberté se comporte toujours comme étant un esclave dans ses réflexes. Malheureusement, dans sa tête, il est libre, mais dans ses actes, dans ses réflexes, dans ses habitudes, il agit toujours en esclave. Et telle est l'image du serf-arbitre utilisée par Luther. Une première problématique s'impose. Avec cette histoire de recevoir le titre d'enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Il y a ceux qui disent, il faut se convertir pour devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, ils doivent faire une démarche pour être nés de nouveau. Luther n'est pas d'accord sur ce propos. Que dit Jésus sur le sujet? Vaut mieux qu'on lui pose directement la question à Jésus, sans faire notre propre interprétation. Et voilà ce qu'il dit dans Jean chapitre 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. » Ce titre d'enfant de Dieu ne peut pas se recevoir par la volonté de Dieu, c'est un don. On le reçoit d'en haut, celui qui est né d'en haut, c'est Dieu qui déclare, c'est Dieu qui adopte l'homme comme son enfant. C'est un acte d'adoption. Et quand est-ce que Dieu nous adopte? C'est au moment du baptême. Le baptême, ce n'est pas un acte d'engagement vers Dieu. Le baptême, c'est Dieu qui s'engage à nous adopter. C'est tout à fait le contraire. Un Dieu qui fait alliance avec nous. Et ce don de Dieu, on ne l'acquiert pas par nos propres performances spirituelles. Beaucoup pensent que s'ils arrivent à marquer de bons points, alors ils pensent qu'ils recevront la couronne de la vie éternelle. J'ai pas mal fait de bonnes œuvres, ma place elle est prête là-haut. Voilà dans la pensée des uns et des autres. Certains pensent que la couronne de la vie sera attribuée à celui ou celles qui ont su faire plaisir à Dieu sur terre. Il est impossible de plaire à Dieu, dit l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Or, nous avons tous cette tendance à penser qu'il faut faire des choses qui feront plaisir à Dieu pour que le ciel s'ouvre à nous. Il n'y a rien de ce que nous allions faire fera plaisir à Dieu. Et même derrière nos soi-disant bonnes œuvres, et je mets entre guillemets soi-disant bonnes œuvres, se cache une autosatisfaction. Quand on a fait quelque chose de bien, on est si satisfait en nous. Et ça, c'est encore le péché. C'est l'orgueil. Ce qui est appelé par Luther une idolâtrie. Cette autosatisfaction, c'est une idolâtrie. Le culte de soi-même. Moi, j'étais capable de faire ça. Et vous croyez que c'est une bonne chose. Or, c'est de l'idolâtrie. Donc ce que Luther, dans son enseignement sur le serf-arbitre, nous enseigne est une réponse qu'il avait donnée à un monsieur qui s'appelait Erasme. Ce dernier, qui enseignait à l'époque que par la force de la volonté humaine, grâce à laquelle l'homme peut s'attacher aux choses qui conduisent au salut éternel ou s'en détourner. Erasme pense qu'il y a encore une partie de l'homme qui n'a pas été abîmée par le péché. Et donc, il faut exploiter cette bonne chose dans l'homme pour s'améliorer dans la vie. Luther a dit, c'est impossible. Tout a été détruit par le péché. Tout. La moindre cellule est imbibée de péché. Et Luther lui a répondu, lorsqu'un homme est privé de l'Esprit de Dieu, il ne fait pas le mal sous l'effet d'une violence extérieure, contre sa volonté, mais il le fait spontanément par un acte de volonté. Cette explication de Luther est complètement en accord avec ce que Paul dit au verset 18 de notre texte, où il dit clairement, sans ambiguïté, rien de bon n'habite en moi. Ça dérange. J'avais prêché ce texte une fois dans la communauté malgache et il y avait quelqu'un qui était choqué. Je dis, regarde-toi dans le miroir, dans la glace, il n'y a rien de bon en toi. Et moi aussi, je ne sais pas. Ah non, ce n'est pas possible, pasteur. On m'a bien éduqué. Mes parents m'ont éduqué ceci et cela. Je dis, c'est le texte qui le dit. Il n'y a rien de bon qui habite en moi. Et ce n'est pas n'importe qui le dit ici, c'est Paul. Qui est ce Paul? C'est un rabbin. C'est celui qui a suivi la loi scrupuleusement. Donc, qui suis-je par rapport à Paul? Si Paul dit qu'il n'y a rien de bon qui habite en lui, lui qui suivait la règle à la lettre, je ne fais même pas le poids à côté de Paul. Parmi les pécheurs, je suis le premier, disait-il. Alors, moi, qui suis-je? Or, Erasme, l'humaniste, ose dire, il y a encore quelque chose de bon qui n'a pas été détruit par le péché en moi. Et par conséquent, disait Erasme, je peux aller puiser une force ou une énergie enfouie quelque part en moi pour faire du bien. Vous voyez ces deux options totalement opposées. Chers amis, prêcher ce genre de message de nos jours fait fuir. Fait fuir les croyants car on brosse un tableau noir de l'être humain. Aujourd'hui, on met l'être humain au sommet. Or, la parole dit, il n'y a rien de bon en moi. On nous accuserait de répandre un message négatif. Car le monde a besoin de positivisme. Vous avez entendu aujourd'hui dans les livres ésotériques, les livres du développement personnel, on met le point sur le positivisme. Je ne dis pas d'optimisme et de positivisme. Mais je ne sais pas comment certaines personnes analysent le monde, mais les choses qui se passent autour de nous sont flagrantes. Il suffit de regarder les nouvelles. Il suffit de regarder autour de nous nos voisins, nos collègues, nos familles. Le mal règne en maître absolu. Soit ils sont aveuglés, soit ils sont dans le déni. Nous n'avons même pas besoin de faire des études pour constater cela. Mais personnellement, je trouve, et c'est là que la bonne nouvelle entre en jeu, je trouve que le message de Paul dans ce passage nous bouscule justement pour se rendre compte de notre vrai état. Comme le fils prodigue qui a été lu tout à l'heure, l'histoire. Il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien à s'accrocher. Vous connaissez bien cette histoire, cette parabole. À quel moment il y a eu le déclic dans sa tête quand il a vu qu'il n'avait plus rien? Mais quand il avait encore quelque chose, il allait toujours dans sa folie. Voilà le constat. Quand tu es conscient que tu es rien, c'est là que tu as besoin de Dieu. Mais quand tu crois que tu as encore un plan B, quand tu crois que tu es encore bien, quand tu crois que tu peux encore rebondir, alors tu dis, Dieu, je n'ai pas encore besoin de toi. Personne ne lui a dit ce qu'il est devenu. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit « rends-toi conscient ». Il n'y a même pas un discours moralisateur dans cette histoire du fils prodigue. C'est lui-même qui a fait son propre constat à la fin, quand il mangeait les fruits destinés pour les porcs. Il commençait à puer, il puait, il est sale. Et j'ai bien aimé la façon dont Luc a rapporté comment le fils prodigue voyait qu'il était. Voici ce que l'évangéliste Luc dit au verset 17a. Rentrer en lui-même, dans la version que j'ai, rentrer en lui-même, il se dit, oh combien d'employés chez mon père ont du pain, du reste, alors que moi ici je meurs de faim. Surtout la première partie, rentrer en lui-même, c'est là qu'il s'est découvert qui il est. Il avait une fausse idée de lui avant. Rentrer en lui-même, c'est comme quelqu'un qui se regardait devant la glace. Et ce qu'il voyait lui faisait rappeler qu'il avait un père qu'il aimait. Quand il voyait son état, il a dit, je ne savais pas la chance que j'avais. Et donc, pour cette raison aussi que je dis que ce constat amer de Paul sur notre situation de l'humain ne devait pas du tout être comprise comme étant un rabais de l'homme. Non, non, ce n'est pas cela. Ou une humiliation, pas du tout. C'est plutôt un constat. Et qu'il ne faut pas se leurrer sur notre état de pécheresse. Et Paul, lui, au verset 25, à la fin, quand il a fait le constat, voilà, j'essaie de faire le bien, mais à chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Vous voyez toutes ces litanies de Paul, il est en train de pleurer sur son sort, mais je ne m'en sors pas. Et à la fin, quand il a fait tout ce constat, il crie un louange de soulagement, car l'Esprit de Dieu lui a fait comprendre que sa situation désespérante est comme les mains de Dieu qui le poussent dans les bras du Père. Alors, il n'y a plus de solution, il faut que je me jette dans les bras du Père. Voilà. En étant conscient de sa servitude du péché, ce n'est qu'à partir de là que l'homme peut chercher secours vers Dieu. Pourquoi, lors de notre liturgie, il y a la confession des péchés? Ce n'est pas pour faire un discours moralisateur ou pour nous taper dessus. Non, c'est pour te mettre devant la réalité de ta vie. Et qui es-tu réellement? Et en soyant conscient de nous-mêmes, nous nous jetons dans les bras de Dieu et lui demander pardon. Mais s'il croit qu'il peut faire encore quelque chose, l'être humain, de bien, il sera loin du salut. Nous connaissons tous le verset très connu de Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quand tu es faible, quand je suis faible, Paul dit, c'est là que je suis fort. C'est incroyable, non, comme message. C'est contraire du message du monde. Dans le monde, si tu veux réussir, tu dois être fort. Tu dois être le premier. Tu dois être le plus beau. Tu dois être le plus intelligent. Mais ici, si tu veux être fort, accepte ta faiblesse. Accepte que tu n'es rien afin que ma force se célèbre en toi. Afin que la puissance de Dieu se repose sur toi. Et je terminerai sur cette phrase. Qui pourrait dire des choses pareilles aujourd'hui? Il faut être fou pour dire « Je suis fier de mes faiblesses ». Il faut être fou. « Je suis fier de mes faiblesses pour que la puissance du Christ repose sur moi ». C'est là que tu es prêt à l'accueillir. Mais si tu n'es pas encore conscient de ta faiblesse, alors l'orgueil empêche la grâce de Dieu d'agir. Amen.